J'ai eu beaucoup de réflexions pendant en t'écoutant. J'essaie de penser à ce que j'allais dire, puis de voir comment ça pouvait entrer en résonance, mais je pense qu'on va le voir au fur et à mesure. Évidemment, moi, je vais parler du cinéma, mais j'ai le sentiment, je l'annonce tout de suite, il me semble que par rapport à ce que tu as dit, il s'est passé un peu l'inverse avec le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a plutôt une suspicion à l'égard de la fiction et surtout à l'égard de la narration, pas tant chez les cinéastes, dans les films eux-mêmes, que chez les théoriciens du cinéma, théoriciens et critiques du cinéma, et plus particulièrement encore en France, c'est-à-dire vraiment un sentiment de suspicion à l'égard de la narration, du cinéma narratif, qui perdure encore d'ailleurs aujourd'hui. Donc, ce que je vais aborder, ça concerne, pour faire le lien avec ce que tu disais, ça concerne un peu cette tension entre représentation et documentation. Donc, je pense qu'on est vraiment dans ces eaux-là. Mais je vais en parler davantage en termes de narrativité, puisque, bon, comme c'est le séminaire sur les narrations contemporaines, j'ai pris au mot... l'organisation du séminaire. Donc, je vais parler essentiellement d'un objet, donc un film, Le Fils de Charles, le film de Nemes, du cinéaste hongrois, Laszlo Nemes. Alors, je dis Fils de Charles parce que dans le film, c'est comme ça qu'on l'appelle, Charles. Bon, évidemment, c'est Saül pour les francophones et Saul pour plusieurs autres, on va dire comme ça. C'est plus pratique aussi de dire le fils de Saul, mais je vais quand même l'appeler Charles. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont vu le film ici? Il y en a plusieurs qui ne l'ont pas vu. Hein? Bon, très bien. Alors, je vais pouvoir en parler quand même un peu ici pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vais commencer toutefois avec une citation de Primo Levi. Donc, bon, c'est un film qui porte sur la Shoah. Donc, Primo Levi, c'est un homme, dans sa préface en 1947, qui écrit, alors je le cite, « Je suis conscient des défauts de structure de ce livre. » Je pense que tout le monde sait Primo Levi, je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est bon. « Donc, je suis conscient des défauts de structure de ce livre et j'en demande pardon au lecteur. En fait, celui-ci était déjà écrit, sinon en acte, du moins en intention et en pensée, dès l'époque de la guerre. » Donc, dès l'époque du camp. Le besoin de raconter aux autres, de faire participer les autres, avait acquis chez nous, avant comme après notre libération, la violence d'une impulsion immédiate, aussi impérieuse que les autres besoins élémentaires, hein, c'est-à-dire, évidemment, boire, manger. C'est pour répondre, je cite toujours, à un tel besoin que j'ai écrit mon livre, et c'est avant tout en vue d'une libération intérieure. De là son caractère fragmentaire. Les chapitres en ont été rédigés non pas selon un déroulement logique, mais par ordre d'urgence. Le travail de liaison, de fusion, selon un plan déterminé, n'est intervenu qu'après. Alors, ce qui m'intéresse en particulier dans cette citation, c'est le fait que la mise en récit de l'expérience, au fond, fait déjà partie de l'expérience. C'est-à-dire que dès l'expérience du camp, il y a, comme dit Primo Levi, ce besoin de raconter aux autres. Évidemment, les autres étant ceux qui ne sont pas là, donc ils sont soit à l'extérieur, qui n'en auront jamais connaissance, peut-il penser, ou les autres aussi comme étant ceux de l'avenir, s'il y a encore un avenir possible. Donc, cette idée que la mise en récit de l'expérience, elle est déjà dans l'expérience, enfin, l'idée de la mise en récit, le besoin et même... l'impulsion immédiate de la mise en récit de l'expérience, elle fait partie de l'expérience elle-même. En d'autres termes, il n'y a pas quelque chose comme l'expérience de la Shoah, toujours dans les termes de Primo Levi, et de l'autre côté, quelque chose comme la mise en récit de cette expérience-là. Celle-ci est déjà là dans l'expérience du camp, ce qui est quand même pas rien. Vers la fin de son livre, Primo Levi relate de manière très indirecte un événement singulier survenu à Auschwitz. Je le cite encore. Le mois dernier, un des fours crématoires de Birkenau a sauté. Personne parmi nous ne sait exactement, et peut-être ne le saura-t-on jamais, comment les choses se sont passées. On parle du Sonderkommando, le commando spécial préposé aux chambres à gaz et aux fours crématoires, qui est lui-même périodiquement exterminé et tenu rigoureusement isolé du reste du camp. Il n'en reste pas moins, c'est toujours lui qui parle, il n'en reste pas moins qu'à Birkenau, quelques centaines d'hommes, d'esclaves sans défense et sans force comme nous, ont trouvé en eux-mêmes l'énergie nécessaire pour agir, pour mûrir le fruit de leur haine. Alors, au moment où Lévi pense ne jamais pouvoir l'entendre, cette histoire non encore racontée, impose déjà une exemplarité, puisqu'il dit « il n'en reste pas moins, hein, il y a un reste là, il n'en reste pas moins qu'à Birkenau, quelques centaines d'hommes, d'esclaves, ont eu le courage d'agir. Hein, il n'en reste pas moins que des hommes comme eux ont agi. » Alors, je rappelle évidemment que Primo Levi parle du Sonderkommando, donc de la révolte qui a eu lieu en octobre 1944, et que lui-même ne fait pas partie des Sonderkommando, hein, mais c'est à peu près le seul passage, un des rares passages où il va parler des Sonderkommando dans ce livre-là. Et il en parle précisément pour évoquer cet événement-là, qui est un événement qui évidemment va devenir historique, et il en parle aussi pour dire il n'en reste pas moins, hein, donc il y a quelque chose là comme une exemplarité. Malgré tout, ils ont agi. Et cette dimension-là de l'action est très importante, évidemment, si on parle de narration, puisque c'est la conception que je vais élaborer ici. La narration est intrinsèquement liée aux actions. Elle est intrinsèquement liée à la possibilité d'agir. Alors, le film de Nemesh est, à mon avis, le film qui semble réconcilier la Shoah avec la fiction, avec aussi les formes les plus anciennes, en fait, de la narration. Je vais résumer en disant comme ça. Donc, réconciliation avec la fiction, réconciliation avec les formes les plus anciennes de la narration, à un moment où, en fait, ça fait plusieurs années qu'il y a des débats. J'avais pensé, en fait, beaucoup parler de ces controverses, mais on pourra en parler dans la discussion, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de débats dans le milieu du cinéma autour, précisément, de cette représentation de la Shoah. Parmi ces débats, je dis le cinéma, mais on devrait dire les images, hein, en général. Bon, parmi ces débats-là, les deux plus célèbres étant le débat autour de la sortie du film de Spielberg, La Liste Schindler, Claude Lanzmann, cinéaste du grand film documentaire Shoah, a pourfendu évidemment le film de Spielberg, et l'a pourfendu précisément parce que c'est un film de fiction. Lanzmann a toujours eu cette attitude très tranchée, hein, qu'on ne peut pas faire de film de fiction avec la Shoah. Et l'autre débat, c'est un débat sur lequel je ne m'étendrai pas du tout, là, c'est le débat sur, on pourra en discuter, entre Gérard Wachmann et Didier Berman, donc un débat qui touche plus les historiens d'art, autour de la nature des images et particulièrement la nature des photographies qui ont été prises dans les camps par les membres du Sonderkommando, photographies dont on raconte en partie l'histoire dans le film de Nemesh. Donc, il y a vraiment, ce sont vraiment les deux grands débats là, qui cristallisent en quelque sorte la manière de penser la Shoah à l'égard des images et à l'égard de la fiction et aussi de la narration. Donc, voilà. Alors, ce film-là de Nemesh, c'est une sorte d'ovni. Personne n'attendait un film de fiction sur la Shoah, encore moins un film de fiction sur la Shoah qui porte sur le cœur même de l'entreprise de la Shoah, c'est-à-dire les chambres à gaz et les fours crématoires, donc un film qui porte sur les Sonderkommando. C'est bel et bien un film de fiction, c'est bel et bien un film narratif, et Claude Lanzmann quand le film est sorti, a dit, c'est devenu un peu comme le grand prêtre, de, est-ce qu'on a le droit de représenter ou pas la Shoah? Bon, Claude Lanzmann a dit, c'est un chef-d'œuvre, je suis d'accord avec ce film. S'il y avait un film de fiction à faire sur la Shoah, c'était celui-là. Alors, évidemment, on se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Lanzmann endosse, en quelque sorte, pour la première fois, une fictionnalisation de la Shoah? Alors, c'est un peu, ça c'est mon point de départ, si vous voulez. Je vais résumer brièvement le film pour qu'on comprenne bien mon propos, puis ensuite, je vais m'attarder davantage certains procédés dans le film. Puis, je vais vous montrer un petit extrait aussi. Alors, je vais le résumer donc brièvement. Ça raconte, au fond, l'histoire de Scholl, qui est détenu dans le camp d'Auschwitz, qui fait partie de ses commandos spéciaux, donc chargé de travailler dans les chambres à gaz, les vider, brûler les cadavres, disperser les cendres également dans la rivière, bon, etc. Donc, c'est l'histoire de cet homme-là qu'on commence à suivre dans le film, et puis à un moment donné où il y a quelque chose, il y a un événement qui se produit, c'est un enfant qu'on sort de la chambre à gaz et qui respire encore. Et là, les détenus s'agitent un peu, on sort l'enfant, on le dépose sur une planche, et puis, bon, ben, on alerte évidemment les gardes. Et c'est le médecin-chef nazi, évidemment, qui s'intéresse à l'enfant et qui l'achève, l'étouffe, en demandant qu'on l'apporte dans la salle d'autopsie et en disant « nous allons l'ouvrir ». Scholl assiste à cela. Je fais une histoire courte parce que c'est quand même assez long. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il va, durant tout le film, il va avoir une quête, c'est de prendre cet enfant-là, donc il va le prendre, et il dit reconnaître dans cet enfant son fils. Je dis « il dit » parce que, évidemment, le film n'est absolument pas clair là-dessus. Est-ce que c'est vraiment son fils ou pas? Bon, on discutera tout à l'heure. Donc, il va prendre ce corps-là et il va vouloir lui donner le kaddish. Il va vouloir trouver un rabbin pour faire la prière, donc faire le kaddish, prière funèbre. Et il va vouloir donner une sépulture à cet enfant. En d'autres termes, il va vouloir donner au cadavre sa propre mort. Hein? Voilà. Donc, je le résume comme ça. Et à la fin, bon, je ne vous dirai pas comment ça se termine. On va arrêter comme ici, puis on en discutera après. Puis ça, c'est ça, quand on commence à dire que c'est difficile même de résumer comment ça se termine. Bon, voilà. Alors, le film s'appuie... Si j'ai pu quand même raconter jusque-là assez facilement, le film s'appuie sur une mise en intrigue classique avec son moment initial, son nœud, bon, évidemment l'apparition de l'enfant dans la vie de Scholl, et puis cette quête, hein, donc, qui est tout à fait conforme à une intrigue classique. C'est, en d'autres termes, ce qui va m'intéresser ici plus particulièrement, c'est ce modèle de la quête, hein, qui est classique, là, donc c'est vraiment ce qu'on retrouve, mais comme acte de foi, hein, parce que Scholl croit qu'il peut apporter à l'enfant son kaddish. Et c'est aussi, étant donné que c'est une intrigue classique, c'est aussi un film qui renoue avec les histoires les plus anciennes et qui renoue même avec le conte. Didier Huberman a fait un beau petit livre sur le film où il parle, entre autres choses, de ces points de rencontre entre celui-ci et le conte. Donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus. Mais ce que je veux retenir, en tout cas, c'est cette mise en intrigue parfaitement conforme à la norme de ce qu'est un récit, et plus particulièrement aussi une norme qui s'inscrit dans ce que font les récits filmiques les plus courants de nos jours. Hollywood font carbure, évidemment, sur la même mécanique. Alors, donc, jusque-là, il n'y a rien d'audacieux dans le film, évidemment, mais on peut dire peut-être c'est le contraire d'une certaine manière, parce que ça prend un peu d'audace pour donner cette facture classique, pour transformer, en fait, la question de la Shoah en une quête facilement transposable dans toutes sortes de récits archi connus. Donc peut-être qu'il y a une audace ici, en 2018, de faire un film comme celui-là et de le faire sans s'exposer en plus aux critiques les plus acerbes. Mais ce sont certains choix qui sont faits par le réalisateur qui distinguent, selon moi, plus particulièrement le film de ceux qui l'ont précédé. Alors, donc, je vais m'arrêter principalement sur quelques procédés, comme j'ai mentionné tantôt. Mais la première chose, c'est le traitement du regard. Je vais vous montrer un extrait. En fait, je vais vous montrer le début du film, c'est-à-dire le moment où entre en scène, hein, l'entrée en scène du personnage, c'est toujours un moment extrêmement important au cinéma. Donc, je vais vous montrer le début du film. Je vais pas me rendre directement aux images parce que le film commence avec du texte, en fait. OK, donc ce qui m'intéresse ici plus particulièrement, c'est le regard. Bon, évidemment, vous avez remarqué que dans la portion de film que vous avez vue, c'est le regard de Charles qui suit. On ne voit pas ce que voit Charles, donc on n'est jamais placé en tant que spectateur dans l'axe de son regard. Quand le film avance, il y a des moments, mais assez rares finalement, où notre regard de spectateur coïncide avec celui du personnage principal. Le traitement du regard au cinéma, d'abord, il faut dire que tout film construit un regard spectatoriel. C'est le regard spectatoriel donc, sur lequel je voudrais insister. Un regard spectatoriel que le film met en scène. Un regard qui s'accommode, hein, le regard du spectateur, donc qui s'accommode des changements de point de vue, des mouvements de caméra, hein, de tous les déplacements. Un regard, en fait, qui est habituellement, dans les films de fiction, concentré sur l'action et qui est toujours un regard mobile et qui l'est de plus en plus, d'ailleurs, parce que le cinéma, hein, avec la technologie actuelle, rend le regard encore plus mobile qu'autrefois. Le film de Nemesh renforce, je dirais, cette concentration du point de vue, ou plutôt cette concentration du regard du spectateur sur, sur l'action, mais renforce cette concentration au point de faire voir le point de rupture de ce regard spectatorial. Je vais l'expliquer. Le traitement du regard dans le film fonctionne à partir d'une combinaison. Première chose, une réduction de la profondeur de champ. Vous avez remarqué, tout est embrouillé autour du personnage principal. C'est pas comme ça tout le long, mais pas loin. Hein? C'est assez rare qu'il y ait de la profondeur de champ. Et en réalité, c'est la toute dernière image du film, la forêt où un autre enfant fuit, où là, tout à coup, il y a cette profondeur de champ qui nous avait échappé depuis le début du film. Donc, réduction de la profondeur de champ, réduction du point de vue lui-même, point de vue, en fait, qui donne au hors-champ une importance excessive. C'est-à-dire, le point de vue est orienté vers Charles, presque tout le temps. On suit Charles constamment. Ce qui fait en sorte que tout ce qu'il y a autour, donc ce n'est pas simplement la profondeur de champ, mais tout ce qu'il y a autour nous échappe aussi. On y accède comme spectateur, hein, je parle toujours du regard spectatoriel, on y accède par le son, puisqu'on entend, des voix, on entend des cris, on entend des accents aussi, etc. Donc, on accède à ce hors-champ, évidemment de manière extrêmement partielle par le son, mais en général, dans le film, le hors-champ acquiert donc une importance extrême. Donc, réduction de la profondeur de champ, réduction du point de vue lui-même, hein, qui donne au hors-champ cette importance. Dans le film de Nemesh, le regard du spectateur est entravé parce que doublement sollicité. Il est attiré par ce qu'il ne voit pas, hein, c'est-à-dire qu'il y a cet effet de regard spectatoriel, mais ce regard-là, il est attiré par ce qu'il ne voit pas, parce qu'il lui échappe dans le flou de l'image et ce qui lui échappe dans le hors-champ de l'image. Un hors-champ qui est donc, par définition, évidemment, inaccessible. comme si l'image filmique avait intégré une vision iconoclaste. Ça, c'est peut-être l'élément le plus original quant à ce regard-là, hein, c'est que l'effet de ce regard est qu'il inscrit au fond dans le film, dans l'image même, une vision iconoclaste. Une vision iconoclaste qui rappelle sans cesse que les images des chambres à gaz ne seront pas rendues visibles et que ces images ne seront pas rendues possibles. Bon, je pourrais parler plus longtemps là-dessus, mais voilà. Ou faisant la démonstration aussi que le spectateur, fort de ce qu'il sait déjà de la Shoah, parce que quand on regarde le film, assez vite on se repère, on se dit, ah oui, d'accord, on est à Auschwitz, et nous savons ce qui est, enfin, nous avons lu, nous avons imaginé des choses sur Auschwitz, nous avons vu aussi des fictions, des représentations d'Auschwitz. Donc, le spectateur, fort de ce qu'il sait ou de ce qu'il croit savoir déjà, peut reconstituer non pas la réalité du camp, bien évidemment, mais indéfiniment, je dirais, son imagination, hein, imaginer le camp, une imagination toujours changeante. Ou on pourrait dire aussi que c'est son imagination qui se trouve confrontée constamment par ce refus de la visibilité. Alors, de cela, je vais aller directement vers le cadrage. En fait, ça produit un cadrage qui est très serré. Un cadrage du personnage principal qui contraint donc le regard. Il faut dire aussi que le film est tourné en format très réduit, hein, en format restreint, il n'y a pas de scope. Donc, ce n'est pas simplement le flou de l'image, ce n'est pas simplement l'exacerbation du hors-champ, c'est aussi, dans une certaine mesure, hein, cet effet de resserrement du cadre autour du personnage. Et en cela, la présence de Charles à l'écran agit comme un témoin. On peut entendre le terme témoin de deux manières. D'abord, on peut s'y attendre assez facilement, témoin parce que, comme on le dit souvent, puis c'est Renaud Delon qui l'a, je pense, le mieux synthétisé dans son livre sur le témoin oculaire, le corps du témoin est un morceau de l'événement. Hein, et dans ce sens-là, le film fait bien sentir que le corps du témoin, en fait, il est littéralement un morceau de l'événement, étant donné, même sur le plan donc, de la matérialité de l'image. Il y a un effet « je », puisque c'est toujours ce personnage, ce même héros que l'on suit, il y a un effet « je » dans le film, mais c'est un « je » sans intériorité. Pourquoi sans intériorité? Parce qu'on n'arrive jamais à savoir exactement qui est Charles, à quoi pense Charles à tel ou tel moment, sinon toujours Charles veut enterrer l'enfant. Donc il y a un effet jeu, mais c'est un effet jeu sans intériorité. Cette histoire qu'on nous raconte, ce n'est pas l'histoire de Charles qui prendrait la parole pour raconter son expérience, comme c'est le cas des témoins, de ce qu'on entend chez les témoins habituellement. Ce n'est pas non plus l'histoire de Charles dont l'acte de bravoure se reflèterait dans le regard des autres détenus, ce qu'on voit souvent, en termes même de reacting shot, parfois dans les films qui traitent de la Shoah. Donc, ce n'est pas non plus l'histoire de l'acte de bravoure de Charles, hein, reflété dans le regard des autres détenus, et même pas dans le regard des spectateurs. C'est ça qui est un peu étrange aussi, parce que l'aventure ou la quête de Charles apparaît d'emblée dans le film comme quelque chose d'un peu absurde. Enfin, quelque chose qui déroge à ce qui se passe dans le camp. Et le nom même de Charles, Charles Auslander, réfère Auslander justement à l'étranger, hein? Donc celui qui est en dehors. Alors, raconter l'histoire de Charles, si on dit habituellement que raconter, c'est un acte de langage qui restitue à la victime son droit de parole, raconter l'histoire de Charles, ce n'est pas donner la parole à Charles. Ce n'est pas non plus raconter l'histoire de Charles à travers la parole du témoin. Euh, Mais Charles est néanmoins un témoin dans un sens un peu technique et très différent, c'est-à-dire au sens cette fois physique de l'élément qu'on laisse déborder afin de saisir ce qui est arrivé tout autour ou de se repérer. Ce que l'on conçoit, par exemple, c'est comme ça qu'on appelle ça le témoin en urbanisme. Quand on enlève, par exemple, sur un terrain une portion de terre, on va laisser un témoin, on va laisser une partie du terrain surélevée, pour laquelle on n'enlèvera rien, pour pouvoir savoir combien de quantité de terre on a enlevé. Alors, je répète donc cette définition. Témoin au sens de l'élément qu'on laisse déborder afin de saisir ce qui est arrivé tout autour ou de se repérer, le témoin qu'on place ou l'élévation de terre qu'on laisse subsister pour faire connaître quelle était l'élévation des terres qui en ont été enlevées. Charles, toujours dans ce regard spectatorial, est un témoin au sens, au deuxième sens, il va l'être aussi au premier, au deuxième sens que je viens d'évoquer ici. Mais ce qu'on comprend donc, c'est que ce témoin dont on suit le parcours ne nous dit jamais rien sur lui. Il ne raconte pas son histoire, il ne cherche pas à raconter une histoire et il nous est donné à voir sans histoire. On ne sait pas d'où, on ne sait pas exactement d'où il vient. D'où la difficulté de savoir est-ce qu'il y a eu vraiment un fils ou pas. On ne saura jamais, en fait. On ne saura pas. Donc, cette combinaison, donc la réduction radicale de la profondeur de champ, la concentration permanente sur le corps et le visage du héros, et évidemment cette notion de témoin que je viens d'évoquer ici, tout cela, au fond, c'est ce que je vais appeler la vision en témoin, qui est quelque chose de très technique, au fond, d'une certaine manière, parce que c'est comme ça que le spectateur, ou plutôt c'est comme ça qu'on construit le regard du spectateur dans le film, hein, à travers une vision témoin, ce qui correspond un peu à une vision en entonnoir aussi, hein, parce qu'on est toujours placé comme ça. Et qui correspond parfaitement à ce que les jeunes hommes du Sonderkommando d'Auschwitz, à la fin de l'année 1944, au début 1945, désignaient comme étant, je cite, la nécessité de raconter, hein, dans le camp, c'est ce qu'ils ont écrit, hein, à ce moment-là, un jour dont chaque minute ne sait ce que la suivante apportera. Un jour dont chaque minute ne sait ce que la suivante apportera, en termes cinématographique, quand on se reporte au film de Nemesh, c'est un continuum d'images dont chaque plan ne sait pas ce que le suivant apportera. Et pourquoi j'insiste sur cette phrase, pourquoi j'ai retenu cette phrase dans ce texte-là, c'est un projet, hein, c'est des jeunes hommes qui avaient commencé à rédiger ça, mais bon, le camp a été libéré, ils ont pu, eux, s'en sortir, le manuscrit a été conservé. Pourquoi j'insiste sur cette phrase-là? Précisément parce que eux, ce qu'ils disent dans leur texte, c'est « nous avons voulu raconter ce que nous vivons, ce qui se passe ici, mais pas comme les historiens, pas dans les détails, avec les chiffres, tout ça. Nous ne voulons pas raconter notre mort, cela les historiens le feront. Nous voulons raconter ce que nous vivons à tous les jours, un jour dont chaque minute ne sait ce que la suivante apportera. » D'accord? Donc, c'est... Alors donc, cette vision en témoin, elle répond d'une certaine manière, d'une manière cinématographique, hein, à cet impératif-là. Il y a aussi, dans le film de Nemesh, outre ce regard spectatoriel, il y a aussi un souci documentaire qui est remarquable. Et là, on va probablement entrer dans le même débat. Le film s'appuie fondamentalement sur les manuscrits des Sonderkommando d'Auschwitz, ou ce qu'on appelle aussi en anglais les Scrolls of Auschwitz. Également aussi sur certains témoignages, dont celui que j'ai évoqué, que je viens d'évoquer, mais aussi des témoignages des survivants des Sonderkommando au procès de Cracovie en 1946. Donc, ces textes-là sont colligés maintenant. Ça a été aussi traduit en français. La plupart ont été écrits durant l'année 1944-1945, mais on a retrouvé ces textes entre 1945 et 1983, je crois. Peut-être plus au 80-83, quelque chose comme ça. Enemesh s'est basé essentiellement sur ces textes-là pour faire son film, c'est-à-dire sur l'histoire donc, des Sonderkommando, racontée par les Sonderkommando, mais surtout, dans la plupart des cas, racontée depuis le camp, hein, c'est-à-dire sur le lieu même de l'expérience. Et puis aussi des témoins donc, qui ont pu relater, mais à peine un an plus tard, leur expérience. Et un des manuscrits de ces témoins-là, des rouleaux, des manuscrits des Sonderkommando, donc retrouvés, hein, déterrés au moment de la libération des camps, c'est celui de Zalman Gradovsky, que Alexandre connaît beaucoup mieux que moi. Un manuscrit donc, qui est caractérisé par une forte interpellation du lecteur, par un usage aussi de formules impératives. Alors, je vais vous citer, puis évidemment, il y a des ellipses là, mais je veux que vous entendiez bien. Il y a une scansion, il y a une formule qui revient tout le temps. Le texte, en fait, commence comme ça aussi. « Viens vers moi. » Donc, évidemment, c'est Gradovsky qui écrit ça dans le Sonderkommando, là où est Scholl. « Viens vers moi, toi, heureux citoyen du monde, qui habite le pays où existe encore bonheur, joie et plaisir, et je te raconterai comment les ignobles criminels modernes ont transformé le bonheur d'un peuple en malheur, changé sa joie en éternelle tristesse, détruit à jamais son plaisir de vivre. Viens vers moi, toi, libre citoyen du monde, dont la vie est assurée grâce à la morale humaine. Viens vers moi, toi, libre citoyen du monde, dont le pays est ceint de modernes murailles de Chine. Viens vers moi, toi, libre citoyen du monde, qui a eu le bonheur de ne pas avoir à affronter la domination des féroces bourreaux modernes. » Et cette formule-là de « Viens vers moi, toi », elle est constante dans le texte. Et c'est un long texte, hein. C'est un livre, hein. Bon. Donc, cette incantation-là, ou cette interpellation, c'est une invite directe, hein, impérative, à venir à la catastrophe, à entrer dans le camp avec le témoin, à réduire sa vision normalement panoramique du monde, hein, c'est-à-dire, sa vision normalement panoramique, c'est-à-dire le monde, le pays, hein, ce que le texte évoque, hein, qui appartient à ce toi. Hein. Donc, le monde, le pays, la joie éternelle, donc, des éléments qui sont par définition panoramiques. Donc, invité à réduire sa vision normalement panoramique, à réduire son champ aux dimensions, justement, de la vision en témoin. Et je trouve assez intéressant, justement, ce texte-là, parce que j'ai l'impression que Nemesh a un peu pris à la lettre, hein, cette incantation-là. Plusieurs passages des manuscrits et des témoignages évoquent aussi le Kaddish, dans des termes qui décrivent l'environnement et le projet de Scholl. Dans l'introduction au recueil inachevé Auschwitz, hein, celui dont je parlais tout à l'heure, on peut lire ceci. « Nous qui mourrons ici, dans la froide indifférence polaire des peuples, oubliés du monde et de la vie, ressentons pourtant la nécessité de laisser quelque chose pour l'éternité, sinon des documents accomplis, du moins des bribes. Une fois que nous serons bien étouffés, on s'emploiera à nous déterrer, et alors nous ne serons plus que cendres éparpillées. Tout homme culturel et respectable se sentira le devoir de nous regretter et de prononcer notre raison funèbre. » Et c'est ce lien entre le Kaddish, la raison funèbre, et le fait de vouloir laisser quelque chose. Donc, c'est pas simplement faire une cérémonie pour avoir droit à sa propre mort, c'est aussi laisser quelque chose de cette propre mort-là. Donc, ce sont des impératifs, si vous voulez, qui sont constamment entrelacés dans ces témoignages-là. Le témoignage encore de Yaakov Gabé, qui lui est un témoignage recueilli en Israël, je cite, « Quand nous avons terminé de brûler les 390 corps, nous avons incinéré chaque personne de notre famille, et de notre connaissance séparément. Nous avons rassemblé les cendres de chacun, nous les avons mises dans des boîtes, nous y avons inscrit le nom du mort, sa date de naissance et la date de son assassinat. Nous avons enterré les boîtes et nous avons même dit le kaddish, mais qui ferait le kaddish sur nous? Alors, vous voyez, cette préoccupation pour le kaddish, ça, c'est quelque chose qui est assez constant, comme l'est aussi la préoccupation de raconter l'histoire dans le camp lui-même. Et bien sûr, Nemesh a retiré, si on veut, de ces textes-là, de ces témoignages-là, le sel même de son histoire. Et là, bon, je passe, ce serait vraiment extrêmement pénible, mais il y a aussi toute la figure de l'enfant qui respire encore. C'est une figure qui est aussi, qu'on retrouve aussi dans les manuscrits et dans les témoignages, mais que Nemesh a construite, donc fictionnalisée forcément, à partir de différents cas de figure, et il en a fait un seul cas de figure. Donc, mais bon, je ne vais pas vous passer la lecture de ces textes-là. Voilà, alors donc la quête de Shaul est une fiction, une intrigue qui se détache sur un fond historique avéré, évidemment Auschwitz, et sur ce fond, documenté par les manuscrits, par l'historiographie, par les témoignages, apparaît également une trame. Apparaît une quête, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais apparaît aussi une trame. Elle est très importante, cette trame, c'est la révolte des Sonderkommandos, donc qui a lieu en octobre 1944. Des détenus, donc, trament en effet, mais comme à côté, derrière, autour de Shaul, pour le regard du spectateur, puisque le spectateur est rivé à Shaul constamment, et que Shaul lui-même est rivé à sa propre intrigue, à sa quête, comme l'attention donc du spectateur, à elle aussi, mais sans cesse interpellé par ce qui l'entoure. Sur le plan de la narration filmique, cette trame constitue bien une intrigue secondaire, elle se rattache à l'intrigue principale, la quête de Shaul, mais de manière ponctuelle, accidentelle. Au regard de la quête de Shaul, la préparation de cette révolte est presque une nuisance. Shaul, lui, il veut faire son truc, mais il y en a d'autres qui lui demandent, ben, peux-tu faire ceci pour nous? Bon, tout ça, il le fait bifurquer sans arrêt. Donc, au regard de la quête de Shaul, la préparation de cette révolte est une nuisance, bien que Shaul accepte ponctuellement de participer à son effort. Outre la quête de Shaul et la trame des révoltés, le film comporte une troisième intrigue dont le degré de ponctualité et d'accidentalité est encore plus fort, c'est-à-dire la captation des photographies sur les lieux au sortir des crématoires et des chambres à gaz, parce que ce sont les photographies en fait des fosses qui constituent les bûchers au sortir des chambres à gaz. Photographies qui sont avérées. Ce sont des photographies, donc il y a eu, Lieberman dans son débat par exemple avec Bachmann, discutait beaucoup de ces photographies-là. Mais ici dans le film, cette troisième intrigue nous est racontée encore une fois par la bande, toujours un peu accidentellement parce qu'on dérive vers elle et puis ensuite on se retrouve toujours avec Shaul. Shaul qui bifurque donc de sa quête, en se voyant confier une mission qu'il prend au sérieux, mais comme pour s'en débarrasser. Donc, c'est-à-dire, il faut absolument que tu ailles t'occuper de l'appareil photo. Et puis, accidentellement, comme par hasard, c'est même Shaul qui sauve la preuve photographique, c'est lui qui cache l'appareil photo, mais au détour donc de sa propre quête, dont on sait aussi, quand on a vu le film, qu'elle n'aboutira pas, cette quête-là. Enfin, on en discutera. En traitant donc cet épisode comme une intrigue très secondaire, Nemesh nous confronte à l'idée que ce qui importe davantage que le contenu de ces photographies, où on arrive d'ailleurs mal à voir, est précisément ce qui se trouve dans le hors-champ, leur hors-champ, le hors-champ de ces photographies d'Auschwitz, c'est-à-dire ces hommes qui les ont réalisées parce qu'ils ont cru pouvoir communiquer avec l'extérieur du camp, et qui ont trouvé en dépit de tout, comme le disait, comme on le disait tout à l'heure, donc l'énergie nécessaire pour agir. Donc, ce sont, c'est au fond l'histoire de ces hommes-là en train de faire ces photographies-là qui constituent en quelque sorte le hors-champ de ces photographies. Mais c'est cela que raconte le film. Okay? Donc, ce qui compte pour Charles et qui nous entraîne avec lui, c'est l'obligation de restituer à l'enfant son rite. Et je vais terminer donc sur cette question du rite qui m'apparaît essentielle. Donc, restituer à l'enfant, ou plutôt restituer l'enfant à son rite, et par là restituer à l'humain son humanité, renouer avec le sens et surtout renouer avec la possibilité d'agir. La quête, c'est ici le rite, en quelque sorte, hein, parce que tout ce que j'ai décrit hein, en termes de quête, le but, c'est de faire advenir ce rite-là, de le produire, de produire ce rite-là. Et Charles, a accompli le rite parce qu'il s'est consacré à la quête, non pas parce que sinon on dit, à la fin, il ne réussit pas, hein, enterrer l'enfant, il ne réussit pas non plus à faire dire le kaddish par un rabbin, mais il réussit d'une certaine manière sa quête et son rite, d'une certaine manière donc, puisque il poursuit, en fait la quête devient elle-même hein, le but, d'une certaine façon. Et puis à la fin du film, le corps de l'enfant s'échappe, alors Charles est en train de se noyer, il laisse aller le corps de l'enfant dans son linceul, donc l'enfant lui échappe, l'enfant d'une certaine manière intact va donc s'écouler dans la rivière, hein, va suivre le courant, on ne sait pas ce qui va devenir avec lui, mais on sait néanmoins qu'il échappe au devenir cendre, hein, qui est celui de tous les autres, bien évidemment. Et puis, évidemment, on peut aussi, certains ont fait le lien avec Moïse, hein, bien entendu. Là. Mais alors, donc, c'est ici, c'est le rite, l'accomplissement des gestes qui se substituent, en quelque sorte, à la parole du témoin. Ce qui constitue le témoignage ici, c'est l'accomplissement des gestes. Charles ne parle à peu près pas, d'ailleurs, hein? Et puis le rabbin n'arrive pas à dire le kaddish non plus, mais ce qui va constituer donc à la fois le rite et le témoignage, c'est l'accomplissement des gestes. Cet accomplissement des gestes, donc, qui est répétitif, puisqu'on est toujours dans la poursuite hein, du parcours, de la trajectoire de Charles, cet accomplissement des gestes, c'est ce qui forme une continuité, c'est ce qui permet donc à une continuité non seulement d'advenir, mais d'être restaurée. Et c'est donc en quelque sorte ce qui correspond au récit qui n'a pas lieu parce qu'il ne témoigne pas. Hein, il n'y a pas de témoignage dans le film. Mais s'il y a du témoignage, c'est à travers précisément ce parcours-là que l'on fait avec Charles. Et aussi, bien entendu, dans la poursuite de sa quête, c'est l'accomplissement des gestes, hein, donc qui ne sont pas des gestes de rite, mais qui sont des gestes de la quête elle-même. Et pourquoi je relie ici le rite au témoignage et à la fiction? Précisément parce que tous les trois, ce qui les définit, ce qui définit le témoignage, ce qui définit la narration, hein, ou le récit, ce qui définit le rite, c'est précisément cette restitution d'une continuité, soit restitution, soit hein, faire advenir la continuité, mais c'est vraiment ce mouvement de continuité-là, donc à travers les gestes, en l'occurrence pour Charles, qui forme le récit et qui forme le rite. Et la restauration donc, d'une forme de continuité, c'est le sujet même du film de Nemesh, hein, le sens même de la quête de Charles, le rite funèbre, et le mobile même de l'histoire qui est racontée dans ce film. Par rapport à la trame des révoltés d'Auschwitz, qui consiste à détruire le système qui les détruit, ou à la captation photographique qui consiste à prouver l'existence du système, la quête de Charles le plonge dans une action improductive. Ça, c'est assez important. Hein? C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le rite est une action, mais une action improductive. L'action de Scholl est tout entière enfermée dans sa détermination, ni détruire, ni prouver la destruction des Juifs, mais la traverser improductivement, c'est la dimension proprement épique de la quête également. Et puis, bon, comme je disais tout à l'heure, ça rejoint évidemment la dimension du rite. Voilà.